J'ai jamais fait quelque chose d'aussi difficile. Donc, heureusement que j'avais encore un peu d'inconscience. Je suis ressorti lessivé de ce truc.
Grosse fatigue. Le deuxième film de Michel Blanc porte bien son nom. Film charnière dans l'histoire de la comédie française et dans la carrière de son créateur. Récompensé par 2 prix à Cannes et grand succès au cinéma, cette délirante comédie suit Michel Blanc dans son propre rôle alors qu'un sosie maléfique tente de lui voler sa vie. Humour méta, effets spéciaux pionniers, mise en scène mimant les documentaires du JT, Grosse Fatigue impose dès sa sortie en 1994 de nouvelles règles à la comédie française. Comment Michel Blanc a cassé les codes de la comédie française avec Grosse Fatigue ? Bonjour, je suis Jérôme Lachasse et j'ai rencontré le héros du film, l'acteur principal, le réalisateur, Michel Blanc. Son idée, créer de la folie dans la comédie.
Ce qui se faisait à l'époque, c'était beaucoup des films façon d'Abadie, Un éléphant s'est trompé énormément, etc. C'est-à-dire des comédies bourgeoises, je dirais. Hein. Moi, j'avais envie de faire une comédie un peu plus folle, un peu plus déjantée. Et puis, c'est surtout que j'avais envie de faire autre chose que ce que j'avais fait avant. Et avant, c'était des comédies de café-théâtre tout de même. Hein. Marche à l'ombre, c'est ce que je répète à chaque interview, mais Marche à l'ombre, c'est pas le début de quelque chose, c'est la fin de quelque chose pour moi. C'est la fin de cette période de café-théâtre et de comédie de café-théâtre. C'était le film que je voulais faire, en fait, au fond. C'est très difficile de se renouveler quand on a eu un très gros succès, parce que on a peur de perdre le public qu'on a eu. Et c'est pour ça que j'ai mis 10 ans à passer à l'écriture du suivant, parce que j'étais un peu dans le vide, puisque je voulais plus faire ce que je faisais avant, mais j'avais pas encore trouvé ce que je voulais faire après, donc voilà.
Pendant une décennie, Michel Blanc multiplie donc les expérimentations en tant qu'acteur. C'est notamment le film de Bertrand Blier, Tenue de soirée, qui lui vaut le prix d'interprétation à Cannes, qui va l'inciter à vouloir dynamiter les codes de la comédie française.
Ce qui va nourrir, c'est effectivement Tenue de soirée. C'est cette folie que Bertrand a. Bertrand se permet tout. Et ça, j'ai découvert ça sur son plateau. Et je me suis dit, en fait, le cinéma, si on ne se permet pas tout, ça ne sert à rien.
Michel Blanc a une idée qui va lui permettre de tout se permettre, mais difficile de la mettre en œuvre ou de trouver le bon axe pour la traiter.
Depuis très longtemps, je voulais faire un film sur le rapport qui est absolument étrange entre le public et les vedettes. Sans me moquer ni des uns ni des autres, hein, mais me moquer du rapport. Et je ne trouvais pas le biais pour que ça ne passe pas comme quelque chose de pleurnichard, genre « Oh, comme c'est dur, bah, si c'est dur, t'as qu'à arrêter. » Enfin, vous voyez. Donc je ne trouvais pas, et je voulais une distance. Parce que c'est un truc très étrange à vivre. Hein. Les gens, ils vous parlent comme si, ils vous connaissaient depuis longtemps, ce qui est très bien. Moi, je n'ai pas à me plaindre, c'est, je dirais tout le temps. C'est pas presque tout le temps, extrêmement chaleureux, extrêmement positif, extrêmement gentil. Donc, j'ai pas à m'en plaindre. Et je voulais pas que le film ait l'air de s'en plaindre. C'est pour ça que je voulais que ça soit une comédie vraiment très, très exagérée même.
Son producteur Patrice Ledoux, alors directeur général de Gaumont, lui donne un conseil. S'associer à Bertrand Blier pour l'écriture. Les deux hommes écrivent beaucoup, mais le scénario ressemble davantage à un film de Blier qu'à un film de Michel Blanc. Leur collaboration ne dure pas très longtemps, mais Michel Blanc en tire une idée parfaite, tellement inspirante qu'il va pouvoir terminer son scénario. L'idée, faire jouer à des stars leur propre rôle.
Je me suis remis à réécrire après, j'ai remis à plat, je suis reparti à zéro, et j'ai réécrit en gardant cette idée de départ, à savoir que, en fait, il arrive un truc à Michel Blanc qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire mettre Michel Blanc, je parle pas de moi, la troisième personne. Le personnage, il ne comprend pas pourquoi les gens réagissent comme ça. Ils comprennent pas. Ben, au bout d'un moment, on s'aperçoit, c'est parce qu'il y a un mec qui est un sosie qui lui ressemble, qui lui est assez mal intentionné et qui en profite pour faire des tas de trucs pas bien et qui retombe sur la tête du vrai. Donc voilà, c'est parti sur cette idée, cette mise en abîme, de, comme on dit dans les universités, de la notion de notoriété. C'est-à-dire, je suis célèbre et quelqu'un qui n'est pas moi peut me voler ma célébrité pour faire autre chose.
Michel Blanc ignore qu'un sosie parfait de lui-même sème la zizanie dans le milieu du cinéma. Le vrai Michel Blanc se retrouve ainsi accusé d'avoir violé Josiane Balasko. Progressivement, le sosie prend sa place et le remplace auprès de ses proches. Accompagné par Carole Bouquet, Michel Blanc mène l'enquête pour tenter de comprendre.
Monsieur Blanc, je pense que vous n'êtes ni Dr. Jekyll, ni Mr. Hyde. Je pense seulement que vous êtes un acteur surmené.
Vous êtes Michel Blanc ?
Je sais pas, il est encore trop tôt, là. Et vous ?
Michel, qu'est-ce qu'on prend ? C'est acteur !
Mais j'en sais rien, bordel, j'en sais rien !
J'ai pas eu le temps de dire ouf. Il m'a cogné, il m'a attaché au radiateur avec des menottes et il m'a baisé !
On devrait pas y aller, Carole.
Détendez-vous, le cauchemar est bientôt fini, je le sens.
L'idée du sosie lui avait été inspirée par des mésaventures survenues à Gérard Jugnot et Roberto Benigni dans les années 80.
Dedans, il y a un épisode, il y a une scène qui est entièrement inspirée d'un truc qui est arrivé à Gérard. Mais c'est une scène, c'est la scène du supermarché. Parce qu'il a, heureusement pour lui, il n'a pas eu à vivre ce que mon personnage a à vivre. Mais un jour, il est dans le midi et il voit un grand panneau. Aujourd'hui, à Auchan ou je ne sais pas quel autre grand magasin, Gérard Jugnot viendra. Il se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Avec un mec qui lui ressemblait un peu, en photo, dans une pose un peu clownesque. Donc évidemment, il est allé voir le directeur du magasin, il dit, mais c'est quoi cette histoire ? Attendez, vous allez m'enlever ça tout de suite. Donc, je ne sais pas s'il a poursuivi le mec ou pas, je crois, mais je ne sais plus. Mais enfin, il a mis fin à l'équivoque, quoi. Mais ça a dû lui faire un choc, parce que c'est un peu ce qui arrive à mon personnage, quoi. C'est de se dire, mais on va penser que je fais de l'animation de supermarché, maintenant. Et Roberto Benigni, avec qui j'ai tourné par la suite, dans Le Monstre, m'a dit ça m'est arrivé, moi. Mais bon, alors le mec, je suis allé le voir, j'ai un peu poursuivi, après il a arrêté, presque il me manque. Ça, c'est Roberto, ça.
L'idée de Grosse Fatigue est si atypique que Patrice Ledoux décide de faire appel à une autre pointure du cinéma français.
Comme mon cher producteur Ledoux avait un doute sur mon scénario, sans me le dire, il l'a fait lire à Francis Weber. Ce qui m'a agacé prodigieusement, non pas, mais qu'il ne me le demande pas. J'aurais pu, moi, demander à Francis, qu'est-ce que t'en penses ? Mais on ne fait pas le même cinéma, Francis Weber et moi. Et donc, je me disais, c'est absurde. C'est absurde. Lui, il fait parfaitement une forme de comédie qui n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire. Donc, lui demander son avis. Et effectivement, il m'a proposé une chose qui ressemblait à ce qu'il fait. C'est-à-dire de rationaliser la fin. Et moi, je ne voulais pas rationaliser du tout la fin. Rationaliser la fin d'une manière simple, il n'y a pas de secret. Il me dit, mais tu vois, en même temps, en étant très, très enthousiasmant, enfin, très pas enthousiasmé, mais très encourageant, voilà. En me disant, tu as de l'ordre entre les mains, là, mais il faut que tu retravailles. Et il avait raison. Et il me dit, mais je ne sais pas, par exemple, tu vois, ce qui serait bien, c'est comme c'est si d'un seul coup, chacun était plus heureux dans son nouveau rôle que dans l'ancien, c'est-à-dire moi dans la vie du sosie et le sosie dans ma vie à moi. Je dis oui, mais ça s'appelle le penser le pauvre, je crois, dans les contes anglais. J'ai dit, j'ai pas envie de faire ça, donc bon, moi c'est pas ça du tout. Mais c'était une idée, qui lui ressemblait à lui.
Michel Blanc partage la vedette de Grosse Fatigue avec Carole Bouquet. L'actrice est surtout habituée au rôle dramatique. Là, ça lui plaît de jouer sa première pure comédie. Carole Bouquet demande à Michel Blanc de lui écrire des dialogues extrêmement truculents comme il le ferait pour Josiane Balasko. À l'écran, l'alchimie est parfaite. Mais avant Carole Bouquet, Michel Blanc pensait appeler une autre star.
Au tout début, avant, parce que j'ai écrit pour Carole, dans l'idée originale, c'était Deneuve et moi. Et Deneuve a dit non, j'y crois pas, je pense que les gens, au bout de 20 minutes, ça les amusera plus de nous voir jouer nos propres rôles, très gentiment. Hein. Donc je me suis dit, si c'est pas Deneuve, elle a peut-être raison d'ailleurs, ça a un peu ébranlé mes certitudes, mais je vais écrire pour Carole. Donc j'ai écrit le rôle pour Carole, qui a eu en plus l'élégance de ne pas me dire, écoute, démerde-toi, tu voulais Deneuve, tu l'as pas eu, va te faire voir. Et le film est allé à Cannes une année où elle était co-présidente.
Oui,
avec Eastwood. Et j'ai eu le prix, ce qui est pour moi le comble de l'élégance, j'ai eu le prix du scénario pour un scénario qu'elle avait refusé. Moi, je dis la classe quand même. Hein.
D'autres stars acceptent de jouer leur propre rôle, notamment Philippe Noiret. Son apparition est aussi brève que mémorable. Michel Blanc se souvient de la gentillesse de ce grand monsieur du cinéma français.
Philippe m'a dit un truc, je suis tombé au bon moment d'une certaine manière, parce que Philippe, à ce moment-là, il avait l'impression qu'on ne s'intéressait plus à lui que pour lui parler du vieux fusil, qu'il n'y avait pas de truc innovant, etc. Et pendant l'arrêt déjeuner des derniers jours de tournage du film, hein, quand on est devant le Fouquet's sur les Champs-Élysées, etc., pendant l'arrêt déjeuner, il a disparu, il est revenu avec un petit paquet de chez Hermès. Et je lui ai dit, mais c'est quoi? Il m'a dit, ça c'est un stylo. Ça c'est pour vous parce que vous m'avez sauvé de la déprime en me proposant ça. Alors j'ai été extrêmement touché et voilà.
La troupe du Splendide fait aussi une apparition furtive dans le film. Le tournage devient chaotique. La fine équipe n'avait plus joué ensemble depuis des années. Alors elle passe sa journée à rire et à taquiner Michel Blanc.
Ils m'ont foutu un bordel, mais un bordel. Des gamins. C'était incroyable, quoi. À la fin de la journée, on a pris une heure de retard, j'étais dans un état de liquéfaction absolue. Parce qu'ils déconnaient. Parce qu'il y avait ça s'ouvrait. Je voulais qu'on les découvre d'un seul coup. Donc, Carole me disait, bah, venez justement, vos amis sont là. Et elle ouvrait la porte. Et là, derrière, il y avait tout le monde. Sauf qu'il y a tout un moment où la porte était fermée. Et là, je disais, moteur, ils déconnaient derrière, je les entendais se marrer et tout ça. Je leur disais, les mecs, le moteur est envoyé. On a fait un nombre de prises. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est des gamins de 16 balais, quoi.
Grosse fatigue et gros stress, tout au long du tournage. Le réalisateur doit, en plus de la mise en scène, gérer deux rôles différents à jouer, celui du sosie maléfique et le sien.
Et heureusement que je n'y ai pas pensé avant, parce que me serais peut-être dégonflé. Parce que je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi difficile. Donc, heureusement que j'avais encore un peu d'inconscience. Je suis ressorti lessivé de ce truc.
De Michel Blanc qui se parle sur la même image, c'est un défi. Celui des effets spéciaux numériques, qui sont alors balbutiements. Pitoff, futur réalisateur de Vidocq et de Catwoman, s'en charge.
Je ne pensais pas que ce serait aussi chiant. Je ne pensais pas, je savais comment ça se faisait, je m'étais documenté, mais je l'ai écrit sans savoir à quel point ce serait lourd. C'est plus facile maintenant avec le numérique, hein. Mais à l'époque c'était très très difficile. On faisait 30 prises, 35 prises, alors il fallait que les prises soient bonnes pour le jeu, mais qu'en plus elles soient bonnes pour la mise en place, pour les regards, pour que ça colle avec les regards de l'autre. Alors on avait un mec sur le plateau avec un retour qui disait non, il faudrait la refaire parce que là on a l'impression que tu regardes un peu plus loin que lui. Je jouais avec un pied de projecteur et un scotch bleu dessus, et je jouais avec le scotch bleu dans les deux sens. Les deux personnages différemment si possible.
Très contente du film, la Gaumont soumet Grosse Fatigue au Festival de Cannes. Et le film est accepté. Le film fait même partie, avec La Reine Margot, des films français envoyés dans la sélection officielle. Le film sort le 18 mai, en plein festival. C'est un triomphe, avec 2 millions d'entrées.
Mais 2 millions, pourquoi? Parce qu'on a été, on a eu le prix à Cannes. On n'aurait pas fait 2 millions sans le prix à Cannes. Parce que le Cannes est arrivé en deuxième semaine. Le prix est arrivé en deuxième semaine. La première semaine était bonne, hein. On a fait une première semaine qu'on serait content de faire maintenant avec n'importe quel film, surtout une comédie. Mais ça nous a filé un coup d'accélérateur. Et je pense que sans Cannes, on aurait fait peut-être 1,2 million, mais pas deux.
À la fin de Grosse Fatigue, Philippe Noiret a cette réplique culte. Il sent le sapin, le cinéma français. À la sortie, cette fameuse tirade sur la mort du cinéma français suscite des réactions outrées. Certaines personnalités du milieu ne supportent pas la gueulante du personnage et estiment que Michel Blanc cherche à régler des comptes. « Faux !» répond Michel Blanc.
« Je me suis fait injurier par un connard d'attaché de presse, une espèce de vieux con d'attaché de presse qui a dit à mon agent « on n'a pas le droit de parler du cinéma français comme ça ». Je m'en fous. Quand j'ai imaginé que ce serait Noiret, je me suis dit « Noiret dirait ça ». C'est ça qu'ils n'ont pas compris, ces idiots. C'est que c'est pas Michel Blanc, l'auteur, qui dit ça. C'est le personnage Philippe Noiret qui dit ça. Ça, ils ne comprennent pas ça. C'est-à-dire, ils n'ont rien compris à l'art dramatique. C'est-à-dire qu'on joue des personnages et qu'on n'est pas le personnage. Sinon, c'est de la psychiatrie. Et comme Noiret a cette espèce de... Enfin, avait le pauvre, cette espèce de dimension un peu d'Aristo, un peu passéiste, un peu tradit. Je me disais, qu'est-ce qui serait bien dans la bouche de quelqu'un d'un peu traditionnel? Ben, c'est de se dire, regardez dans quelle décadence nous sommes. Et c'est pour ça que j'ai écrit la scène. Pas du tout pour faire un bilan du cinéma français. En fait, c'est une phrase qui a irrité les vieux cons et en même temps qui a stimulé les réacs. C'est formidable. Mais ça ne m'a pas nui, et ça n'a pas nui au film.
Grosse fatigue se termine avec Philippe Noiret et Michel Blanc remplacés par leur sosie. Ils redémarrent à zéro et deviennent figurants, comme pour montrer leur addiction à un métier qui les rejette. Une fin pessimiste qui alerte en réalité sur les dangers du métier d'acteur et la vanité d'un milieu.
Un jour, on se fait remplacer pour un petit truc, et puis de plus en plus, et puis il y a un moment où la clé rentre plus dans la serrure et où on s'est fait éjecter. Et ça, c'est une image pour dire, à force d'accepter des merdes, on finit par plus pouvoir faire autre chose. À faire des trucs pour l'argent, on finit par plus pouvoir faire autre chose.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Comedy Club, le podcast qui dévoile les coulisses des comédies françaises. Une série à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire. Pour aller plus loin, une série d'articles inédits est à retrouver sur le site de BFM TV. À bientôt.